Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronicle pour notre semaine consacrée aux 404 comics avec leur première sortie dont vous retrouverez les chroniques sur le blog. J'ai aujourd'hui avec moi Nicolas Beaujean qui a pris un petit peu de temps pour venir parler du lancement de la maison d'édition, les quelques titres et plein d'autres choses dont on va dérouler au fil de l'émission. Nicolas, merci beaucoup de ta présence, de ton temps. Comment vas-tu ?
Ça va très bien, comme un lundi, c'est-à-dire à moitié tête dans le gaz et en même temps plein de choses à faire, mais ça va très bien. Et merci pour l'invitation.
C'est un plaisir. Du coup, on va aller un petit peu dans le vif du sujet. On connaît les éditions 404, tout le monde en a plus ou moins entendu parler ou a déjà vu des titres qui sont à ces éditions-là. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le 404 Comics, dont tu es à la tête et dont tu chapotes un petit peu les titres qui sont au catalogue dans le super All New Preview 2021, qui est vraiment très cool. Moi, j'adore le format feuillet, donc j'étais super content de voir un petit preview comme ça. Avant d'attaquer les titres, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi ? Qui es-tu ? Comment tu en es arrivé un petit peu à la tête de 404 Comics et qu'est-ce qui t'a fait arriver là ?
Waouh, il n'y a pas de ligne directrice, donc ça va être un peu compliqué. Pour faire simple et court, on va dire que moi j'ai commencé à travailler, quand j'ai commencé à travailler donc jeune, vers 18-20 ans, j'ai commencé à travailler dans la musique principalement. J'ai commencé par être musicien, je me suis occupé d'une salle de concert, j'ai fait ça, ensuite j'ai monté ma propre maison de disques, et vu que j'avais fait des études d'art, je me suis mis à travailler dans le livre par amour du livre en fait. Et ça fait 15 ans maintenant que je travaille dans le livre, et que mon métier principal, ce qui m'a fait vivre pendant des années, c'est de la direction artistique, c'est-à-dire que je me suis occupé pendant des années de faire des livres, tout simplement, de les emballer on va dire. Et j'ai aussi écrit un livre, c'est pour ça que c'est très compliqué, il n'y a vraiment pas de ligne directrice, c'est un peu des allers-retours, un peu comme ça, un peu tout le temps dans ma vie. J'ai aussi écrit un livre, en fait, je ne sais même plus quand c'est, 2013 ou 2012, chez Robert Laffont, qui était le premier essai, en fait, sur la culture geek en France. Et partant de là, en fait, j'ai été appelé par les éditions Hachette, pour aider ce qui est devenu un ami, Antoine Béon, qui a monté Hachette Heroes. Et en fait, on l'a monté en fait un peu tous les deux. C'est-à-dire que lui, il était à la tête de la maison. Puis moi, je lui ai monté un peu ses équipes, les développements produits. Il s'agissait principalement de développer des produits autour de grosses licences, c'est-à-dire Star Wars, Marvel. Et donc, ça a été ce qui a amené en fait derrière à ce que je sois appelé par les éditions 404 et par... Alexandra Benz, sa directrice, pour monter cette maison comics. Mais je dois avouer que ça n'a jamais été vraiment une volonté de ma part, en fait. C'est-à-dire que, comme dans toute mon histoire professionnelle dans ma vie, c'est un peu des rencontres, des accidents, des choses qui se mettent en branle un peu, pas forcément avec ma motivation première. En fait, c'est pas moi qui suis nécessairement moteur. En fait, par contre, j'accompagne plutôt les gens à faire ce qu'ils ont envie de faire parce qu'ils sentent des choses que je ne vois pas nécessairement en moi au départ. Donc, en plus, de surcroît, la BD, enfin le comics, on va dire, même si pour moi, c'est comics, c'est plus l'appellation sympathique et liée à ma passion pour la BD américaine, mais qui est beaucoup plus large que celle qu'on peut avoir quand on regarde ça de loin. Donc, c'est plutôt de la BD, enfin même des livres pour moi, en fait, tout simplement. Mais en fait, j'avais jamais eu le désir, même dans mon aventure dans le livre, d'aller vers la BD, tout simplement parce que j'avais dans ma famille en fait un grand éditeur de BD qui était mon oncle et en fait c'était tellement immense comme ombre que j'ai toujours eu du mal à avoir le sentiment de pouvoir me développer là-dedans parce que voilà j'avais l'impression qu'il avait déjà tellement tout fait parce qu'il a vraiment été très très haut et donc c'est même lui qui m'a fait dire je pense pas vraiment mes premiers comics mais en tout cas qui m'a ramené des choses qui m'ont ouvert l'esprit que lui publiait, c'est-à-dire à l'époque des gens comme Corben, des choses comme ça.
D'accord.
Je me rappelle même que c'est lui qui m'a fait découvrir Rocketeer, c'est lui qui m'a j'ai grandi en fait là-dedans et mon père était aussi libraire de l'autre côté, donc en fait j'ai grandi aussi avec le franco-belge, le 48 CC, donc j'ai aussi grandi avec ça, c'est-à-dire que ma passion pour les petits hommes de Céron est indéfectible et ne bougera jamais. Mais voilà, donc tout ça fait que j'avais jamais pensé à me lancer dans la BD parce que ça me semblait un peu immense. Et en plus, quand j'ai quitté Hachette, parce que j'ai fait Hachette en indépendant en fait pendant 3 ans pour développer Hachette Heroes, ensuite je suis rentré en tant que directeur artistique chez Hachette pratique en direct, c'est-à-dire pour m'occuper du guide Hachette des vins, de toute la partie cuisine, voilà, pour faire autre chose aussi parce que j'aime bien aussi découvrir d'autres choses et développer d'autres compétences. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans et au bout de 2 ans j'avais fait un peu le tour de la question chez Hachette parce que c'est une grosse structure, une grosse mécanique dans laquelle c'est très compliqué de développer des choses avec comme moi j'aime faire. Moi j'ai aussi une passion pour le punk hardcore américain des années 70-80 et j'aime bien faire les choses tout seul. J'aime bien, quel que soit le métier que j'ai pu faire dans ma vie et les choses que j'ai pu faire, j'aime bien les faire en mettant les mains dans le cambouis un peu partout pour bien comprendre en fait toutes les dynamiques et toutes les problématiques de chaque partie du métier. Chez Hachette, c'était pas vraiment possible. J'avais rencontré le grand directeur en fait de la partie Edi8, donc qui est une des deux parties du groupe Editis. Et on avait dans l'idée de monter une maison qui finalement on n'a pas pu voir le jour. On avait vraiment bien 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 avancé sur un sujet qui n'a strictement rien à voir avec celui qui nous importe aujourd'hui. Mais Alexandra, que je connaissais depuis quelques temps, donc sur la partie plutôt jeunesse, on va dire, même si c'est un peu vulgaire parce que c'est pas la réalité vraiment du secteur, c'est juste son pôle est considéré comme le pôle jeunesse de chez Edi8.
Oui, c'est des catégories à chaque fois. On catégorise à chaque fois, alors que ça passe très facilement d'une catégorie à l'autre et c'est des termes qui n'auraient pas lieu d'être.
Ouais, non, mais c'est ça. Donc voilà, en tout cas, c'était le pôle jeunesse. J'appartiens au pôle jeunesse, en gros, on peut dire. et c'est elle qui m'a dit j'ai envie, elle a monté 404 édition classique, elle était en train, d'ailleurs les titres sortent là, ils ont été un peu décalés à cause du Covid comme pour beaucoup de gens, 404 Onboards, en fait toute la partie qu'ils sont en train de développer qui est la partie jeu de plateau, mais vraiment jeu beaucoup plus solide que ce qu'ils pouvaient faire avant qui était juste la partie escape game ou escape book classique, ils sont vraiment en train de développer cette partie jeu de plateau beaucoup plus solide. Et en fait, elle m'a proposé ça, voilà, de dire « Écoute, moi, j'ai envie de faire du comics. » Et tout, j'écoute. Alors, ma première réaction, ça a été de lui dire « Mais pourquoi ?» Je lui ai dit « C'est quand même très compliqué, le marché est dur, il y a déjà beaucoup d'acteurs. » Et donc, de prime abord, j'ai plutôt refusé, tout simplement. Je lui ai dit « Écoute, ça me paraît très compliqué quand même, très très dur. » Elle me dit « Mais ouais, mais réfléchis-y. » Et puis, tu sais, on pourrait faire de la création aussi. Alors là, j'ai fait « Ah !» Là, par contre, si en plus on peut faire de la création, là, ça devient intéressant parce qu'on n'est pas juste focalisé et assis sur des licences ou des achats de droits, mais on peut développer tout un discours, en fait, et développer de la création avec des auteurs français et européens parce qu'en fait, on travaille avec beaucoup de gens en Europe. Et donc, c'est là que je me suis dit, OK, d'accord, go. Je lui ai dit, bah, écoute, je pars en Norvège. En plus, c'était le moment, c'était 2019, je crois. Donc, je lui ai dit, écoute, je pars en Norvège parce que je vais souvent en Norvège, j'adore la Norvège. Et je lui ai dit, écoute, on en reparle en revenant. Et durant ce petit voyage en Norvège, j'ai découvert Duns, que donc nous avons ramené, qui fait partie d'ailleurs des premiers titres que nous avons signés et qui sortiront le 1er avril, ce qui n'est pas une blague. Voilà, c'était un peu long, mais parce que c'est un peu bizarre comme parcours.
Mais c'est intéressant. En fait, c'est chouette parce que... Enfin, personnellement, je trouve ça chouette parce que ça apporte une vision plus de l'objet livre en tant que quelqu'un qui aime avoir un beau livre, plutôt que vraiment une réflexion d'éditeur en chef, si on peut dire ça, où vraiment c'est la série qui fait le livre. Enfin, je trouve que peut-être on envisage plus le livre pour enjoliver la série, plutôt que la série qui fera l'objet.
Bah oui, surtout que quand on a lancé la prospective pour savoir ce qu'on allait faire, donc on a fait beaucoup d'études de marché, ça je connais les chiffres de ouais. Tout le monde, globalement, sur depuis 2012, hein, j'ai fait dingue avec des fichiers Excel, mais parce que c'était important, non pas pour copier les autres, hein, loin de là, mais vraiment pour se rendre bien compte des dynamiques du marché et ce qu'il représentait. Et nous, on est comics, mais en fait, on n'est pas que comics. Donc, en fait, voilà, on avait besoin d'une vision un petit peu plus large pour savoir comment on pouvait travailler et trouver une place. Et c'est vrai que de toute façon, l'objet, pour moi, il est primordial. Donc, déjà, un des premiers trucs que j'avais dit à Alex quand on a monté le projet, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai pas envie de faire de licence parce que j'en sors déjà. Ça faisait 5-6 ans que je travaillais sur des licences et des grosses licences. Hein. J'ai fait du Assassin's Creed, j'ai fait du Marvel, j'ai même écrit des jeux et des bouquins sur Marvel pour Hachette Heroes. Et donc j'en avais un peu marre en fait de ces structures voilà qui obligent en fait, qui imposent.
Cadrées au final.
Hein?
Qui sont cadrées au final en fait.
Ouais, mais très très cadrées et puis très rigides. Hein. Quand j'ai commencé à travailler avec Marvel, c'était vraiment au moment par exemple de la signature, du rachat en fait par.
D'accord.
Par Disney. Et il y avait un moment de liberté qui était assez génial pour travailler avec eux parce qu'ils n'étaient pas du tout fermés. Enfin, il y avait une espèce de allez-y, quoi. Et en fait, on a fait des trucs vraiment super sympas, quoi. Mais très rapidement, ça s'est restructuré, très figé. C'est devenu très compliqué. Donc, moi, je lui ai dit tout de suite, écoute, moi, je le sens pas parce qu'en plus, une licence, ça peut biaiser. En fait, ça peut permettre des grosses ventes parce que si on a du bol et qu'on met beaucoup d'argent, qu'on fait un gros achat et qu'on dépense beaucoup d'argent, ce que j'aime pas naturellement, en fait, j'aime pas dépenser beaucoup d'argent. Espèce de côté mormon, moi. Mais j'aime pas trop ça et j'aime pas parce que ça biaise en fait la réalité souvent potentiellement d'une maison. Surtout en période de lancement. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver à acheter à grands frais une licence et ça peut rapporter beaucoup, effectivement. Mais en fait, ça biaise parce que en fait, très rapidement, en fait, c'est pas le même lectorat, très souvent. C'est-à-dire que quelqu'un qui va acheter des titres d'une licence connue qui passe à la télé ou en dessin animé ou en film ne sont pas nécessairement les gens qui vont ensuite acheter des BD plus classiques, on va dire, avec des vrais récits, un travail scénaristique différent. Et donc, je me suis dit, ça c'est casse-gueule. Déjà parce qu'on a une chance sur deux de se planter en faisant un achat de droit absolument monstrueux. Et en plus, parce que ça nous oblige... Enfin, pas que ça nous oblige, mais ça camoufle en fait la réalité du lectorat qu'on peut fédérer en fait. Et donc, je me dis, ça on n'ira pas.
On le voit en fait assez bien sur tout ce qui est. Là, je vais prendre l'exemple classique de Urban. Le lectorat que Urban va avoir, ça va être le lectorat Batman entre guillemets. Il y a qu'à voir le nombre de titres Batman qui est en publication. Et du coup, c'est difficile de savoir qui va derrière chercher du titre un peu plus indépendant. Que Urban propose, bien que ça soit mis en avant, leur effigie, quoi, c'est le Batman qui fait que. Et du coup, je trouve que en lançant justement 404 Comics sans vraiment licence attractive, à gros titre, c'est vraiment plus. Je le vois plus comme une petite maison qui propose de la BD. Enfin, qualitative, je peux dire qualitative parce que j'ai eu la chance de lire déjà un petit peu Dune et Big Girls. Donc, pour moi, je trouve ça qualitatif. Mais du coup, on sait qu'on y va pour le titre et pas pour la licence. Et du coup, je trouve que ça a un autre attrait pour cet éditeur-là.
Ouais,
je trouve
que c'est intéressant. Ouais, c'était ça, de toute façon, l'idée, comme je te dis. C'est que je ne voulais pas aller vers la licence. Parce que vraiment, pour moi, le rapport qu'on pouvait avoir sur une création, je laisse fermer aux choses, mais en tout cas pour un lancement, je voulais justement qu'on soit l'idée de, et c'est pour moi que c'est important aussi, hein, c'est cette dimension, mais c'était une espèce de profession de foi aussi qu'on voulait faire sur les deux premiers titres, c'était de dire voilà comment on envisage le terme comics aussi, c'est-à-dire qu'on l'envisage sans barrières, sans frontières, et avec cette espèce de grand écart qu'on peut avoir dans les genres et qu'on veut continuer à défendre aussi dans l'avenir. C'était clairement le propos qu'on avait, et puis voilà, après faire des livres objets, même si on va pas non plus faire n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on va quand même conserver les formats sur lesquels les gens sont habitués, ça c'est clair, parce qu'aujourd'hui je pense que ce serait compliqué, même si on aura voilà des formats bien sûr différents, parce que on aura le format classique comics cartonné tel que les gens ont l'habitude de l'avoir chez toutes les maisons, un format un peu plus grand qui va se rapprocher peut-être de ce que font Urban, mais sur la partie c'est graphics ou graphic novel, enfin je sais plus quelle est leur collection, un petit peu plus grande en fait, qui font que Glénat Comics.
Non, c'est Glénat qui les fait, je crois. Enfin, Urban en fait là, qui viennent de sortir.
En fait, c'est ma compagne qui lit les American Gods, la sortie chez Urban. Ouais, des formats plus grands, parce qu'effectivement, des fois, je trouve ça très agréable pour certains traits d'artistes. En fait, je trouve qu'il y a des choses qui se défendent dans ce format-là. Même si j'irais pas, par exemple, là, je sais qu'Urban, lancé leur nouvelle collection. Vraiment très très grand format pour le coup, et moi j'irai pas là-dedans parce que ne serait-ce qu'à titre personnel, j'ai plus de place et que je veux pouvoir ranger même mes propres livres.
Et puis c'est plus où ranger. Du coup, là on parle un petit peu des titres justement qui vont accompagner le lancement au 1er avril, et ça ne sera pas une blague malgré que ça tombe parfaitement bien. On va pouvoir profiter donc du premier titre qui sera Dunes, donc ce titre qui vient de Norvège, oui, et qui sera accompagné par Big Girls. Alors très sincèrement, quand j'ai vu l'annonce de 404 Comics, moi ce qui m'a interpellé c'est Big Girls. J'avais commencé la série en VO, donc j'aime bien quand un titre sort en VF, enfin quand il est annoncé en VF, hein, j'arrête la VO et je soutiens un peu la VF parce que je trouve que c'est des titres indés qui méritent d'avoir leur chance, donc voilà. C'est celui-là qui avait attiré mon attention. J'ai eu la chance de recevoir le Dunes justement pour préparer ce podcast, je l'ai lu, alors une grande partie, parce qu'en fait, je m'en garde. Je m'attendais pas du tout à ça, et je prends un plaisir incroyable à cette lecture. Donc, j'ouvre, je m'en lis quelques-uns, je referme, puis je reprends, et je fais pas forcément dans l'ordre, je prends, je pioche dedans. Et je trouve que... Alors déjà, le livre est très cool, parce que le dos toilé, moi j'adore ça. Mais le papier aussi est très granuleux, et ça c'est très très bien, parce que les couleurs, je trouve, ressortent vraiment... Enfin, moi j'aime beaucoup. Donc... sur ce titre, on a vraiment du strip, de la tranche de vie pure et dure, accompagnée d'un humour où parfois c'est quand même assez alambiqué. Je dois dire que des fois il a fallu que je le relise une ou deux fois pour vraiment attraper la petite subtilité. Mais c'est très plaisant. Et du coup, au départ j'attendais Big Girls, et maintenant je suis ultra content de voir que Dunes va sortir en même temps. Et je mettrais presque plus Dunes en avant le jour de la sortie, parce que j'ai pas passé un meilleur moment, mais je ressors de là toujours plus content en me disant ouais, en fait, même j'ai lu une page, tac, ça m'a mis la banane pour la journée ou quoi, parce que j'ai trouvé ça cool. Sur Big Girls, on est vraiment sur un titre voilà, de comics pur et dur comme on a l'habitude. On y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais sur Dunes, pourquoi avoir importé ce titre là et en faire un titre de lancement? C'est quand même un petit peu osé. C'est un petit peu une sorte de défi de proposer ça en titre de lancement.
Bah, alors déjà, super, merci pour ce commentaire sur Dunes. Jens va être ravi, et moi aussi d'ailleurs. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en fait les deux titres et l'écart qu'il y a entre les deux titres, c'est-à-dire ce gap un peu qui peut paraître énorme, qui pour moi ne l'est pas en fait, parce que je suis suffisamment vieux maintenant pour avoir lu de tout. Et continuer à lire de tout, et donc pour moi c'est naturel. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait le côté profession de foi, voilà, en mode voilà ce qu'on est et voilà ce qu'on va vous proposer. Pour moi c'était important donc d'avoir cet écart, c'est de dire je voulais en fait, quand on a lancé la maison, je voulais absolument du comic strip. Je savais pas quoi, mais c'est un format que moi je trouve dingue, que soit chez Schulz, que chez Watterson et tout, enfin Bones, enfin il y a plein de trucs qui moi me fascine dans le format court, enfin bon, un peu moins, mais ce format court, moi je le trouve fascinant parce que c'est un exercice extrêmement compliqué en termes narratifs, de trouver des idées et tout, et donc je rêvais d'en avoir un, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en partant, quand on a commencé à parler de la maison en 2019 et que je partais à ce moment-là en Norvège, je suis tombé sur ce titre-là, quoi. Et en fait, d'abord, en fait, parce que même si je vais assez régulièrement, pas non plus régulièrement, enfin, tout le temps, surtout pas en ce moment, mais en Norvège, je parle pas norvégien. Je parle pas norvégien. À part demander à boire, ce qui marche dans tous les pays. Hein. Je parle pas norvégien. J'ai quelques mots, quelques références et tout, mais c'est un pays que j'aime beaucoup pour la diversité de ses paysages, pour la gentillesse des Norvégiens, pour plein de choses, pour la musique, c'est un pays, je sais pas pourquoi, je ne l'ai pas choisi, hein, il m'est tombé dessus, et c'est là où je me sens chez moi. Bref, donc je tombe sur ce titre, en fait, vraiment, et j'insiste là-dessus, parce que j'adore cette histoire, parce que vraiment, j'étais à Bergen, et à Bergen, comme dans quelques villes, je crois qu'il y a trois magasins qui s'appellent Outland, en Norvège, qui sont vraiment les comic shops très à l'américaine en plus. En Norvège, donc il y en a un, je crois, à Oslo, donc un à Bergen. Il me semble qu'il y en a un à Trondheim, mais je peux dire une bêtise. Et donc je rentre dedans, et c'est vraiment le titre, en fait, me pop au visage graphiquement, en fait, quoi. Et je me dis, putain, c'est génial, quoi, c'est super et tout. Mais par contre, ça se trouve, c'est complètement con, quoi. Donc
c'est pas ce que je lis.
c'est ça, en fait, c'est-à-dire qu'on est dans un rapport, voilà, graphique, en fait, c'est graphiquement, quoi, là, tout de suite, ça pop, et après, on se dit, bon, ça se trouve, c'est pas terrible, on sait pas, quoi. Et je suis rentré, en fait, j'ai découvert qu'il avait un blog avec l'ancien. Je me suis dit, bah non, mais en plus, c'est cool, en fait, c'est super. Et puis, Et puis voilà, et donc après, on a échangé, parce que moi, j'aime beaucoup, de prime abord, quand je veux travailler avec un artiste, je commence toujours par le contacter. Avant même de contacter l'agent ou la maison d'édition américaine, anglaise, espagnole, quelle qu'elle soit, j'essaye le plus souvent, 90% des cas, je contacte l'artiste parce que pour moi, c'est un rapport éditeur-artiste et que j'ai besoin de savoir si le courant passe, quoi. Enfin, si on a des choses à se dire, si on est d'accord, si sa vision du monde correspond un peu à la mienne, voilà, si on a des points communs et des accroches possibles. Donc j'ai contacté Jens, on a discuté, c'est un passionné de musique, comme moi j'ai travaillé dans la musique et j'ai été musicien pendant des années. On a les mêmes rapports, on a à peu près le même âge, il est un tout petit peu plus vieux que moi. Ce qui n'est pas donné hein, en ce moment d'être un petit peu plus vieux que moi, surtout dans les milieux comme ça, d'édition. Et donc on a échangé et puis voilà, c'est devenu limpide et je crois que on a signé quand j'étais en Angoulême en 2020, parce que de l'année dernière il n'y en a pas eu, j'en aurais
fait. Bah, c'était le dernier.
Ouais, voilà. Et j'ai dû le signer voilà, dans le froid sur une terrasse de mémoire. Mais ça m'a paru complètement évident parce que je voulais un strip, que je l'ai trouvé intelligent, qu'il était en même temps norvégien, mais qu'il était aussi, il avait cette dimension internationale. Je pense qu'on peut comprendre très bien les relations qu'il y a entre les personnages et tout. J'adore l'absurdité qu'il arrive à mettre en place parce que voilà, son pote est un poisson, mais en fait, on l'accepte direct. En fait, on se pose même pas de questions. J'aime la finesse du truc et ça a été comme, par contre, une complexité à traduire. Ça n'a pas été évident parce qu'en fait, le norvégien est une langue neutre en fait. C'est pas une langue qui a des dynamiques en fait avec qui intègre en fait comme ça ou l'intimité ou le, enfin c'est une langue assez neutre, donc il a fallu beaucoup revenir avec Alex Fouillet le traducteur dessus, échanger avec lui sur la tonalité comme ça à donner au truc, même si ça paraît rien en fait quand on lit hein, ça paraît pas nécessairement c'est pas du Shakespeare.
Je pense aussi que il doit y avoir un travail d'adaptation qui est assez important parce que enfin, de ce que je connais des pays nordiques, ils ont quand même des expressions et des façons de vivre et comment on appelle ça ils ont une culture qui est totalement différente à la nôtre. Et du coup, je pense que Jens. Jens. Pourquoi il a mis le S entre le N et le K?
Jens Castive.
Et je pense que du coup, quand il l'écrit, lui, il l'écrit de la manière dont il le vit. Et nous, comme on n'a pas la même perception et la même culture, le travail d'adaptation ne doit pas être simple. Ça doit être intéressant à voir. Ça doit être un exercice intéressant quand même.
Ouais. Pour tout dire en plus, c'est parce que en fait, vraiment, ce premier volume, parce qu'il y en a déjà un deuxième de près, dont on n'a pas encore attaqué la traduction pour le coup, mais on a retiré un strip. Un strip qui vraiment avait un humour typiquement norvégien, avec un jeu de mots typiquement norvégien, on n'y arrivait pas. Donc il n'y en a qu'un qui a vraiment qui est vraiment sorti du lot, parce qu'on pouvait vraiment rien en faire, mais sinon ouais, on s'est amusé comme ça aussi. C'est aussi assez drôle hein. Y a un truc intéressant, moi j'aime beaucoup, en plus je travaille sur Proust en ce moment, sur quelque chose qui n'a rien à voir, mais j'aime beaucoup cette expression qui dit traduire c'est lire autrement. Et donc on a essayé de lire autre gène, c'est de lui donner une tonalité différente, quoi. Ben, pas différente, mais une tonalité qui est compréhensible.
Parce que moi, voilà, comme je disais, j'aime le prendre, l'ouvrir, lire quelques pages par-ci par-là. Ça fait, il y a très peu de, je crois qu'il y a un strip, alors je pourrais pas le dire de mémoire, sur lequel vraiment je me suis dit ah oui, ça m'a pas parlé parce que la situation, parce que voilà. Par contre, tout ce avec Brigo, mais. Moi, c'est... ça me tue.
Franchement. Il y a déjà un spin-off sur Brigo, hein, de près.
Ouais, mais j'ai hâte. Vraiment, ça va être extraordinaire.
Mais ce qui était aussi génial quand on a commencé à échanger avec Jens, c'est de se rendre compte qu'on peut faire des strips et on peut trouver des strips partout. Mais en fait, Jens, il fait des strips vraiment comme à l'origine du comic strip, vraiment son terme technique à partir du moment où des artistes sont vraiment lancés là-dedans, comme Little Nemo, comme tout ça. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, il travaille vraiment toute la semaine et c'est des strips publiés dans les journaux. C'est-à-dire qu'il a ce rapport aussi au temps, à la réaction, à ce qui se passe autour de lui. Donc on est vraiment dans l'actualité. C'est-à-dire qu'en fait, il a vraiment ce truc-là. Donc là, on est au début, c'est le premier. Donc en fait, c'est des strips qui ont 3-4 ans. Mais dès le prochain tome, en fait, on aura quasiment rattrapé la temporalité. Et donc, on va tout doucement arriver dans les choses qu'on est en train de vivre, en fait, très rapidement. Et donc, il y a des choses très, très, très drôles, notamment ce spin-off sur Brégo le chien qui est assez, assez croustillant. Mais... Et en plus, c'est ça qui est génial aussi avec Jen, c'est que c'est sa vie. C'est-à-dire que c'est vraiment. Alors, à part que dans Duns, il n'y a pas de maman. Elle n'apparaît jamais, elle n'est même jamais évoquée. C'est un grand mystère de cette série, mais sauf que Jen est vraiment marié, il a des enfants, et il a Brégo, le chien. Et c'est aussi génial de suivre Jen sur les réseaux sociaux parce qu'il habite à Tromsø, quoi. Tromsø, c'est quasiment, enfin, c'est la dernière ville au nord, une vraie ville, hein, au nord de la Norvège. Donc il a une grande partie de l'hiver en pleine nuit. Il publie des vidéos de lui en train de se balader avec son chien au milieu de rien. Il sort de chez lui, il y a des aurores boréales. Enfin voilà,
Mais oui.
C'est sa réalité à lui, quoi.
La dernière fois, c'est exactement ça. Je venais de finir le strip sur Brégo, quand il fait sortir son chien en plein milieu de la nuit. Et sur Instagram, je crois que c'est un jour ou deux après, où il y avait cette petite vidéo, cette petite story, où il était en train de balader son chien en pleine nuit, et puis il faisait parler un petit peu. C'était assez marrant.
Ah ouais, ouais, non, mais c'est sa vraie vie, et avec toute cette dureté. Et moi, c'est aussi ce que j'aime aussi en Norvège, c'est quand je parlais de la disparité des paysages, c'est aussi cette disparité. Enfin, c'est l'homme. On se demande, en fait, il y a des endroits en Norvège, notamment Tromsø, là où il habite, on se dit, mais pourquoi vous avez été vous foutre là-bas? Vous, être humain, enfin, quelle est l'idée de se dire pourquoi moins de 40 la nuit, pourquoi l'hiver, une moitié de l'hiver, enfin la nuit, la moitié de l'hiver, c'est surréaliste, quoi. Et ça n'empêche pas ce peuple et ces gens d'être amical au possible, d'aimer faire la fête, et en même temps, en comparaison, d'avoir un des plus hauts taux de suicide d'Europe. C'est un pays qui me fascine pour ça, et je trouve que ce qui est génial dans Dune, c'est qu'on retrouve ça. C'est-à-dire qu'en même temps, sous cette forme de légèreté constante, il y a toujours cette forme de gravité, mais qui est légère, c'est vraiment léger, mais elle est toujours présente comme ça, et elle imprègne un peu tous les strips en permanence, qui donne cet humour un peu particulier aussi, je trouve.
Mais moi, je trouve que c'est un beau titre de lancement, parce que déjà, c'est du strip, et qu'on en a, mais on a des classiques. On n'a pas de strip, du moins à ma connaissance, parce que je ne suis pas un gros lecteur de strip, mais on n'a pas de strip qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Moi, je suis très content d'avoir découvert ça. Vraiment, c'est un titre que je recommande.
J'aurais tendance à croire que, enfin, moi, le dernier que j'ai lu en français, c'était Barcenet avec son Retour à la Terre, quoi. Et d'ailleurs, je leur retrouve des points communs, Barcenet et Jens, peut-être au niveau du trait, déjà, surtout sur le Retour à la Terre, même sur leur côté, ils font tous les deux beaucoup de peintures très graves, comme ça. Jens, il fait souvent des peintures très sombres, en fait, à côté, quand il fait des trucs. En ce moment, il fait une expo, il y a deux, trois peintures qui sont vraiment un peu déprimantes, quoi. et il y a ce côté-là aussi. Je trouvais qu'il y avait ce parallèle, je trouve, entre ces deux artistes. Et je trouve qu'en France, le dernier qui, moi, m'a vraiment plu, c'était ça, quoi. C'était Retour à la Terre de Larsenet, quoi. Et d'ailleurs, c'est drôle, parce que la Norvège, c'est un petit pays, au final, en fait. Ils sont pas extrêmement nombreux, et c'est surprenant de voir à quel point ils ont une culture comics, BD, manga qui est complètement dingue, quoi. C'est-à-dire que Jens, c'est un gros lecteur et il lit de tout. On discutait, lui, sa passion pour Franquin, par exemple, elle est entière, et en même temps, il va adorer Peter Bage et puis Tanger, quoi. Enfin, pour eux, c'est complètement naturel. Ils ont ce rapport, voilà, au franco-belge, américain, ils s'en foutent, ils lisent tout. Et je trouve ça surprenant même qu'un si petit pays, avec si peu d'habitants, ait traduit autant de BD françaises, par exemple. Je trouve ça dément, quoi. Ils ont accès à des éditions qui sont très souvent de meilleure qualité que les nôtres.
Il faut apprendre le norvégien et acheter des livres en Norvège.
Un jour, j'aurai le courage.
Pour accompagner Dunes, du coup, que moi je recommande, j'en parlerai un peu plus en détail parce qu'il y a énormément de choses à dire. On a le titre qui sera lancé avec, qui est Big Girls, un produit 100% indépendant américain au format pur et dur comics, single mensuel à l'origine, que nous on aura évidemment au format cartonné en trade paper, enfin en format librairie, voilà.
Cover à l'européenne.
Voilà, j'ai perdu mon mot, c'est pour ça. Big Girls, c'est quand même un titre qui est indépendant, alors qui va accrocher l'œil, parce que graphiquement, c'est ultra dynamique, c'est des couleurs, c'est un peu rugueux, c'est vraiment c'est dans l'air du temps de ce qui se fait, et surtout, ça a quand même une thématique qui est dans l'air du temps, qui va accompagner ça. Parce que on a droit à cette société où les protectrices sont toutes des femmes immenses qui vont protéger la société contre des monstres qui sont, je vais essayer de pas trop spoiler parce que voilà, mais qui sont, comment dire, un sujet sur lequel il y a une lutte incessante, on va dire.
Ouais.
Je ne veux pas trop spoiler parce que comme je ne me souviens plus à quel numéro je me suis arrêté en VO, je ne veux pas gâcher la surprise.
Non, mais de toute façon, le pitch, il est très simple. C'est-à-dire qu'en qui des hommes se transforment depuis leur naissance en monstres géants, et quelques femmes se deviennent géantes et en fait sont utilisées pour protéger l'humanité classique restante des attaques de ces monstres voilà, qui sont des hommes, effectivement, des hommes monstrueux.
Voilà.
Mais ouais, ce titre-là, j'avoue, je connaissais le travail de Jason Ward, l'auteur, qui est d'ailleurs Jason qui dessine et qui écrit. C'est son premier titre où il fait les deux. Je le connaissais pour Trees avec Warren Ellis et Cemetery Beach aussi. Et quand il y a eu l'annonce de ce titre, c'était très simple, c'était. L'accroche publicitaire du truc, c'est les hommes sont des monstres, sauf les femmes peuvent nous protéger, quoi. En gros, enfin, c'était ça le truc. D'ailleurs, on l'a repris derrière, je ne sais plus comment on l'a traduit, mais c'était quoi, c'est, oui, les hommes sont
des femmes géantes.
Le chaos, seules les femmes peuvent les stopper. Voilà. On fait simple, c'est gros doigt agressif. Et en fait, quand le titre est sorti, je me suis dit, bon, bah, je vais quand même choper le premier single issue. Quoi. Ça me paraît un peu grossier. Enfin, s'il n'y a que ça dedans, c'est très bien, parce que je pense qu'il y a un mouvement sociétal qui va dans ce sens-là, et c'est très bien. Mais les effets de style, enfin, je veux dire, ça ne justifie pas en fait, de faire un très bon roman, d'avoir une accroche en disant matriarcat, les femmes libérées. Enfin, il y a un effet d'aubaine qui peut arriver qui n'est pas nécessairement intéressant. Quoi. Faut qu'il y ait du fond. Et je dois avouer que ce titre-là, ben c'est justement parce que c'était pas un effet d'aubaine. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une vraie réflexion cachée sous une action dithyrambique, complètement folle. Il y a une réflexion justement sur pourquoi on en est là et qu'est-ce qu'on peut faire en fait. Jason, lui, il explique qu'en fait, l'idée, elle lui est venue que les problèmes soient tellement grands aujourd'hui qu'on soit incapable d'y répondre, transformer des problèmes en monstres géants pour leur donner cette dimension de comment est-ce qu'on peut répondre à ces trucs-là, c'est immense, quoi. Et en même temps, en disant, oui, mais va bien falloir qu'on trouve une solution. Donc, va bien falloir qu'on échange. Donc, en fait, les choses ne sont pas si simples, et c'est une BD qui fonctionne exclusivement sur les zones de gris, en fait. Que ce soit des gris, en fait, de la cité où ils habitent, que les zones de gris imagées, enfin, je veux dire, les paraboles, en fait. Et donc, il construit tout un discours sur camouflé sous l'action, qui est de comment on fait aujourd'hui pour résoudre les problèmes, quoi. Et comment on fait pour... Ouais.
Quels choix on fait, quelles conséquences ils ont, est-ce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a toujours des choix entre deux, ça joue sur le...
Ouais, non, c'est ça, c'est très touchy, mais en même temps, Jason, il le dit aussi, il dit, j'ai mis ça dedans, mais je voulais aussi faire un putain de bouquin d'action, quoi. Donc, je trouve ça aussi très intéressant, parce que je trouve que la pop culture, comme on dit aujourd'hui, même si, en fait, le problème, c'est qu'on utilise tous ce terme-là en y mettant tout ce qu'on veut dedans, c'est-à-dire que certains vont parler de pop culture pour parler de culture de masse, d'autres de culture de marge, d'autres de machin, mais bon, ce qu'on va considérer comme étant la pop culture, c'est-à-dire les utilisations des codes, en fait, qui aujourd'hui ont plus de 100 ans de culture, surtout jeune, en fait, une espèce de sédimentation comme ça des cultures jeunes depuis une centaine d'années, c'est-à-dire depuis H.G. Wells et d'autres, mais tout ce qui a sédimenté en fait la jeunesse depuis 100 ans sur ses formes les plus extrêmes, qu'elles soient la science-fiction et tout ça, elle peut être utilisée justement pour véhiculer d'autres choses en fait, et très peu arrivent à le faire en fait en gardant en fait le côté grand spectacle, et c'est quelque chose que je trouve assez rare et précieux, et que ce titre-là fait très bien. Je trouve qu'il y avait un film, alors, beaucoup de gens n'aiment pas ce film, et moi je le trouve intéressant justement pour ça, dans ce genre-là, en fait, c'était Colossal, je crois qu'il s'appelait, le film. Un film comme ça, qui reprenait la thématique du kaiju géant, et qui essayait de parler justement d'avoir un discours, voilà, de qu'est-ce que peut représenter ces monstres géants. Voilà. Et c'est un cinéaste espagnol, je crois, de mémoire. Je me rappelle pas de son nom ni des acteurs, c'est terrible. Hein, mais il a fait aussi un autre film qui s'appelait Timeless Crisis, je crois, un truc comme ça, sur un rapport de temps. Bref, là, je divague. Mais voilà, en tout cas, voilà, Jason, et avec Big Girls, il a réussi à faire ça. Hein, un grand comic book BD livre d'action dans lequel, si on a envie de trouver autre chose, on trouvera autre chose. Et si on n'a pas envie de trouver autre chose, on le lira avec grand plaisir.
Il y a plusieurs niveaux de lecture pour ceux qui veulent pousser un peu plus qu'une simple baston
c'est
de kaiju.
Et en même temps, la baston de kaiju est là, et elle est parfaite.
Oui, oui.
Donc voilà, c'est ça.
Non, mais on prend toujours une bagarre de kaiju.
C'est un type voilà, qui permet de réunir autant ce vieux film de Drive-In, l'attaque de la femme de 50 pieds. Il y a un peu de Russ Meyer, on a Pussycat Kill Kill, on a en même temps des espèces de scènes d'action à gun à John Wick, on a du Godzilla, on peut retrouver un peu d'Evangelion si on veut, enfin voilà, c'est complètement... Il y a tout qui est dedans.
Chacun il va y trouver un petit peu sa référence.
Ouais, c'est ça. Et puis j'aime bien aussi le côté non forcé, hein, et du propos de Jason, de dire oui j'avais envie de dire ça, mais je vais pas vous le souligner à gros traits... Il est là, mais c'est pas que ça. Voilà. Il faut qu'on trouve un moyen de s'amuser en disant des choses. Quoi. Et je trouve que c'est devenu assez rare parce que souvent, c'est pas très souvent, en tout cas pas souvent tout le temps, on va comme ça dire on a une espèce de dichotomie complète entre c'est fun et c'est sérieux. C'est en fait une espèce de deux mondes différents. Quoi, alors que réunir les mondes et les faire se parler, ça quand c'est bien fait et que c'est fait avec sincérité, ça fonctionne très bien, quoi. Et c'est intéressant de pouvoir discuter comme ça sur plusieurs niveaux.
D'autant plus que... Enfin, moi, j'ai eu un coup de cœur sur ce titre. Alors, je suis assez faible au niveau des covers. Donc, en général, quand une cover m'attire, j'aime bien... c'est malheureux, mais le comics, en premier lieu, comme c'est graphique, hein, la première impression qu'on a, c'est... la cover. Et du coup, les covers m'avaient beaucoup marqué, du coup je suis allé voir ça. Et pareil, je suis très très content de le voir débarquer en France, parce que c'est des petits trendés comme ça, qui méritent d'avoir une chance d'avoir un nouveau lectorat, et qui ne soient pas exclusivement réservés sur des pays américains ou anglais. Et du coup c'est chouette, c'est un beau petit titre de lancement aussi.
Ouais.
Mais Dune s'est passé avant, du coup moi mon coup de cœur est pris par Dune, ça. Je suis désolé.
Non, bah c'est super. Mais de toute façon, c'est aussi pour ça que voilà, les deux titres sont différents et pas tant que ça. Quoi. Bon, après, on cherche pas nécessairement la circulation des publics, hein, ou des acheteurs ou des lecteurs. On leur fait des propositions qu'on essaye de faire différentes, surtout de ce qui existe. Parce qu'on n'a pas envie ni d'aller gratter sur les places des autres, des gens qui sont installés. Parce que je pense que chacun a son discours propre et que c'est aussi ce qui fait la richesse du truc. Mais pour moi, c'est des titres que j'aurais pu lire, j'aurais pu acheter les deux, quoi. Voilà, c'est un titre perso, donc c'est normal aussi, c'est la maison dont je m'occupe, donc c'est normal que ça me ressemble. mais vu que je ne fais pas nécessairement ce qui est 100% moi, en fait, c'est-à-dire que si jamais je devais vraiment signer que des titres qui ne me parlent vraiment à 100%, je pense qu'on aurait fermé on fermera la boîte dans 2 mois, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc on essaye de trouver quand même des auteurs, et surtout des auteurs, c'est important pour moi. Des auteurs qui ont envie de dire des choses sur le monde d'aujourd'hui. Et c'est leitmotiv aussi, c'était de dire qu'il n'y a rien de plus triste qu'un livre qui ne change pas le regard des gens sur le monde. Et aussi faible soit le changement, hein, la question c'est pas d'avoir une espèce de révélation et de partir changer le monde après avoir lu une BD, hein, mais par contre il faut qu'il y ait toujours comme ça ce petit truc dedans qui donne envie de regarder le monde autrement et peut-être de participer au monde autrement, quoi.
Fasse réfléchir à où malgré tout on a lu un truc loisir, mais quand même c'était pas un truc de neuneux,
oui,
entre
voilà.
Guillemets.
Et puis ces deux titres voilà qui sont effectivement Dune, c'est Bing Girl, très différents, mais il y a d'autres choses qui arrivent derrière qui seront aussi très différentes.
Justement, on a sur le All New Preview, qui est très cool, qu'on peut encore trouver dans certaines librairies.
Oui, et puis en fait, quand le moment le permettra, au bureau aussi, on sera ravis de l'offrir. Si un jour on peut tous se réunir et se rencontrer, on sera ravis de pouvoir le donner aux gens.
on espère, bientôt. On a, on avait quelques dates... prévisionnelles, mais est-ce qu'elles ont changé ou autre du fait?
Alors, à part sur les deux premiers titres qui auraient dû normalement sortir à la mi-mars, maintenant en fait, et on a été obligé de décaler parce qu'on a été un peu trop. On n'a pas vu en fait.
Trop anticipé.
Ouais, anticiper que l'Amérique ne travaillait pas aussi vite que nous parfois. Et donc ça nous obligeait à décaler. Et le problème, c'est que quand on a un tout petit retard, en fait, dans l'édition, très souvent, en fait, il faut avoir de la place chez les imprimeurs. Donc un petit décalage d'une journée chez nous peut provoquer un retard de 15 jours au final. Voilà, entre l'envoi chez l'imprimeur, la disponibilité de l'imprimeur à faire les choses et à les livrer, on peut malheureusement très vite se trouver mal. Donc c'est ce qui s'est passé. Mais sinon, normalement, tous les autres titres, les dates sont bien prévues. Je peux même confirmer que Jonah sortira bien la date prévue en septembre. J'ai eu confirmation de la part de Chris que tout était OK. Donc voilà, donc tout va bien pour les autres titres.
Et du coup, voilà, vu que les dates resteront, on a pour mai la fleur de la sorcière qui est annoncée, et pour septembre, Juna. C'est des titres qui graphiquement sont orientés un petit peu plus jeunesse que les deux précédents dont on vient de parler. Moi, la fleur de la sorcière, graphiquement, m'a fait parler à Nimoy. Donc.
Oui. Non, mais oui, on est carrément dans cette.
Et je trouve ça très cool. Alors j'aime beaucoup moi tout ce qui est à plat, pastel et tout. Du coup, ça veut dire que on peut avoir, enfin, chez 404 Comics, on va quand même avoir un petit peu des titres pour toute tranche de public et tout le monde va pouvoir piocher là-dedans, quoi.
Oui, bah, c'est ce qu'on aime. Il y a 77 ans, c'était quoi? C'était Tintin? Non, c'était le magazine de Tintin.
C'est ça.
Oui. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire qu'effectivement, à part sur des genres comme l'horreur, qui sont des genres très complexes à lire très jeune, quoique je l'ai fait, et ça m'a peut-être pas aidé. Mais oui, les titres doivent être lus par tout le monde. Par contre, l'idée n'est pas de faire des titres jeunesse, au sens titres jeunesse. C'est-à-dire que les titres étiquetés jeunesse qu'on va sortir comme La Fleur de la Sorcière d'Enrico Orlandi, qui est un jeune auteur italien, qui est sorti chez Dark Horse aux États-Unis, répond en fait au code du livre pour enfants, on va dire, mais il parle surtout aux adultes. On pourrait, sur la forme extérieure, trouver très classique, en fait. C'est-à-dire qu'on est à la quête d'un héros, comme on la connaît assez traditionnellement, sauf que déjà, d'une, en fait, on prend cette quête d'un héros qui doit mener une quête, mais qui ne sait pas comment la finir. C'est-à-dire que c'est Tammy, le héros, en fait, fait partie d'un village qui, quand les enfants ont 10 ans, sont lancés comme ça à l'aventure pour mener des quêtes et devenir des hommes. Et ils n'ont pas le droit de revenir dans leur village avant d'être devenus des hommes. Seulement, en fait, on les balance comme ça dans la nature sans qu'aucun de ces enfants ne sache ce que ça veut dire que devenir un homme. Et donc, ça prend comme ça un peu le contre-pied, voilà, du récit héroïque classique. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui nous dit: oui, mais j'ai déjà, en fait, tué des dragons, trouvé des trésors, tué la sorcière, et je ne sais toujours pas où j'en suis et comment rentrer chez moi. Et donc, c'est intéressant parce que d'un côté, on va parler à l'enfant qui sait qu'il doit grandir. S'il a envie de lire assez jeune, donc il sait que son chemin le mènera à devenir un adulte aussi, lui pose la question de savoir ce que lui considère, ce que veut dire devenir un adulte et être un adulte. Et de l'autre côté, en fait, l'adulte, le parent qui est derrière, ou l'oncle, ou la tante, que sais-je, il se pose la question de savoir ce qu'on demande à l'enfant pour qu'il devienne adulte. Et donc là ça crée quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire qu'on peut le lire à plein de niveaux différents et ça devient quelque chose de profondément fascinant. Moi, ce titre-là, il m'a vraiment, vraiment retourné. J'ai eu envie de le signer tout de suite. Parce que c'est assez rare dans ces formes assez jeunesse, on va dire, d'avoir, en fait, sans le vouloir, cette profondeur de réflexion, en fait, sur le sujet. C'est pour ça que je le rapproche, moi, très souvent, parce que je suis aussi un grand fan de la dame, mais d'Ursula K. Le Guin. Mais il y a quelque chose de ça, de ce qu'elle a pu faire dans les contes de Terre-Mère, qui ont été d'ailleurs adaptés par Miyazaki aussi, je crois. Oui, ça a été fait.
Oui.
Qui est pour moi une des plus belles quêtes de fantasy en young adulte, en tout cas à lire pour adultes et à lire pour plus jeunes. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. En tout cas. Mais voilà. Encore une fois, on ne fera pas de titre jeunesse, purement jeunesse, parce que je veux qu'il y ait une possibilité pour un adulte de lire ce titre-là. Donc, ce qui veut dire qu'il échappe, en fait, après, derrière, la qualification stricto sensu jeunesse.
Ça l'enferme pas dans la case comme on parlait tout à l'heure jeunesse à proprement ouais. parler.
Pas la même équipe, non si, qui travaillait sur Lumberjanes. Nimona, Lumberjanes, c'est la même nana, c'est la même. Non
Non Non, je suis pas
super calé sur ces titres. Lumberjanes, j'avoue. TPB qui traîne quelque part. Mais en tout cas, voilà, on les demande de ce genre de style. Moi, ça me fait aussi surtout beaucoup penser graphiquement à. Comme une espèce de réadaptation, mais effectivement, c'est Zelda dessiné par l'équipe de Lumberjanes.
Oui, bah en fait, si, c'est la même.
Oui, voilà, donc c'est
la même dessinatrice. Voilà, c'est,
ouais, effectivement, c'est voilà. Il y a de cette famille là.
Ouais, voilà, on reste sur cette famille de dessinateurs, un petit peu comme tout ce qui se fait chez Boom Studio en ce moment. Il y a beaucoup de dessinateurs dans cette vague.
Et Kaboom.
Ouais, exactement. Mais ils ont des titres très cool. Moi,
j'aime beaucoup Boom. Dedans. D'ailleurs, c'est rigolo, c'est un travail, tout le monde le dit, donc c'est un lieu commun maintenant, mais qui font un travail formidable. Mais étrangement, c'est la seule maison avec laquelle je n'arrive pas à travailler.
Moi, je trouve qu'il y a des titres assez intéressants. Il y en a un petit peu pour tous les goûts. Après, ça reste quand même orienté assez jeunesse, malgré quelques titres un peu plus adultes.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis très dubitatif, mais à titre personnel, parce que je suis parent aussi, de plusieurs enfants, peut-être de beaucoup trop pour le coup pour moi, parce que je commence à être très fatigué, mais j'ai plusieurs âges différents. Chez moi, ça va de 15 à 2 ans. Donc, j'ai un beau panel. Et j'ai toujours été très dubitatif sur la question du livre jeunesse. Parce que soit c'est des livres, d'expérience personnelle hein, pour le coup, qui n'est pas vérité, absolument pas. Mais mon expérience me montre que en fait c'est très compliqué d'avoir des livres vraiment jeunesse, parce que c'est soit des livres qu'on lit avec les enfants quand ils sont très jeunes, c'est-à-dire qu'on les lit pour eux, et après ils vont avoir comme ça leur première lecture un peu solitaire, mais on peut pas leur mettre des choses très compliquées entre les mains non plus à ce moment-là. Et très rapidement, ça j'ai remarqué pour mes deux plus grands par exemple, ils vont tout de suite après basculer, ils veulent tout de suite aller vers des titres beaucoup plus adultes en fait. Enfin, et donc il y a cette espèce d'intermédiaire qu'on essaye de développer, justement ce que font très bien d'ailleurs toutes les éditions spécialisées comme Kinaï, qui font un super boulot sur ce genre de titres. Mais j'ai toujours l'impression qu'en fait on essaye de nous vendre des titres pour des enfants de 10-12 ans, et qu'au final on se retrouve avec des trentenaires qui achètent les bouquins quoi. Ou des jeunes parents qui fantasment que leurs enfants vont les lire.
Après, je pense que les trentenaires, ils vont sur ces titres plus pour les équipes créatives qui sont dessus. Moi, je sais c'est ce que je fais quand je vois un dessinateur que j'apprécie ou un scénariste que j'apprécie. Je vais sur le titre pour l'auteur plus que pour l'histoire. Et après, je découvre si j'aime bien ou pas. Donc, je pense que ça cible... C'est stratégiquement hein, qu'ils le font. C'est obligé, ça. C'est pas possible.
Ouais, non, mais c'est comme, tu sais, les grands livres. J'ai beaucoup travaillé dans les livres jeunesse aussi, ma carrière, et c'est comme ces grands livres très beaux qu'on fait pour les enfants, qui sont des espèces de table book très fins, mais des belles histoires mais avec des dessins magnifiques pour les enfants. Et en fait, soyons très clairs, en fait, on vend les bouquins aux adultes, quoi. On les vend pas du tout aux gosses.
C'est l'objet donc, collector un peu.
C'est quand même quelque chose de surréaliste, c'est-à-dire qu'au final, en fait, on essaie de faire des livres pour enfants alors que c'est les adultes qui les achètent et qui vont les lire. Donc, je trouve ça très drôle comme concept. Donc je suis toujours très dubitatif comme ça sur le fait d'avoir des vrais rayons jeunesse, au sens vrai rayon jeunesse. Hein. C'est-à-dire que c'est comme Titov, si tu veux, en fait. Tu vois, c'est pour les enfants. Oui, les enfants vont lire, mais enfin, t'as quand même 80% de ton lectorat qui est un petit peu plus vieux qu'un enfant de 10 ans. Quoi. Donc je trouve ça toujours très drôle.
Il faut que les trentenaires et plus qui achètent des BD jeunesse, c'est qu'ils ont gardé leurs âmes d'enfant, voilà. Comme ça, tout le
Mais
monde...
Mais c'est très bien, le syndrome de Peter Pan, ça n'existe pas.
Tout à fait. Et du coup, on va passer un petit peu en revue les titres qui vont suivre. Donc, moi, il y a Jonah qui m'a attiré, parce que ben, Chris Samnee, évidemment, ouais. Sur du Daredevil, sur du Firepower, plus récemment... Du Captain America aussi, du Rocketeer. Il a quand même un trait qui est très très pulp. Et moi j'adore le suivre sur Instagram parce que c'est petit dessin en noir et blanc. Mais c'est vraiment. C'est une tuerie quoi.
Ah oui, ces petits doodles super-héros et tout. Et c'est complètement.
C'est vraiment. Et du coup, je suis assez curieux. Cette série, je ne l'avais jamais vu passer nulle part, je sais même pas.
Elle vient de commencer.
Ah, on est d'accord.
Elle vient juste de commencer Cette semaine, enfin la semaine dernière est sorti
le
premier...
Ma question c'était ça, est-ce que c'est le premier volume de la série qui a commencé en VO là? Ou en fait non, c'est juste la série VO qui vient de commencer, c'est pas...
Ah voilà, tu sais c'est la magie du Covid, hein. Donc il sort que maintenant, comme beaucoup beaucoup de titres ont été repoussés, donc ouais, non, c'est celui qui sort actuellement, et ça a été une aventure aussi un peu particulière celui-ci, parce que... Quand tu lances une maison comme ça, bah t'es personne te connaît. Enfin, tu connais quelques personnes dans les maisons diverses et variées parce que tu as travaillé. Parce qu'en fait, même une maison comme Dark Horse, Carrie, chez Dark Horse ne vend pas que de la BD. Par exemple, la vendeuse de droits, elle vend aussi des beaux livres et tout. Donc, on s'est rencontrés plusieurs fois à Francfort ou ailleurs. Mais... Donc, on se connaissait un peu. Mais sinon, t'es personne au regard des maisons classiques américaines que tu peux découvrir. Et donc là, Jonah sort chez Oni Press aux États-Unis, donc qui est la maison qui a Scott Pilgrim, Rick et Morty, des titres comme ça, Invader, je sais plus comment il s'appelle, c'est Invader, bref. Donc qui est une très belle maison, mais on n'était personne, et moi je les ai contactés, je savais que ce titre allait paraître, et je dis, bah, écoutez, si vous avez déjà des trucs, envoyez-les-moi, je serais vraiment curieux de regarder, ça m'intéresse, quoi. Et donc, j'ai reçu les deux premiers, à l'époque, donc il y a un an, plus d'un an, les deux premiers single issues en PDF. Hein, et je dis, mais c'est génial, quoi. Enfin, c'est super, parce que déjà, Chris, il dessine bien. C'est une histoire familiale pour eux, parce qu'il a écrit le titre avec sa femme Laura. Ça raconte l'histoire de leurs deux filles, en fait. Donc, il y a quelque chose de très léger, en fait, sur le fond. Puis, en même temps, graphiquement, moi, bizarrement, je trouve que Chris, quand il fait des trucs perso, il sort complètement du cadre comique classique américain, comme il a pu le faire justement sur Daredevil. En fait, on était vraiment sur un héritage, en fait. Son trait était très hérité, en fait, encore à l'époque. Très beau, très magnifique, mais comme ça, un peu Silver Age, un peu héritage des anciens temps, quoi. Mais... Et donc, là, sur ses titres personnels, quand il travaille, il y a quelque chose de presque très européen, enfin, une espèce de mélange entre l'européen et puis le japonais. Moi, quand j'ai lu le truc, je ne sais pas pourquoi la première fois, ça m'a fait penser à une espèce de rencontre entre Akira Toriyama et Mobius. C'est-à-dire qu'on a cette profusion de détails, et en même temps, on a cette gamine Jonah qui se bat contre des monstres géants, et donc un côté très comme ça sur les tout premiers Dragon Ball, quoi, de Toriyama, les deux, trois premiers tomes. Avec on va pêcher un poisson géant qu'on porte sur le dos et tout. Enfin, il y avait tout ce truc là et donc j'ai trouvé ça fascinant et je lui ai dit bah écoutez moi ça m'intéresse, j'ai envie de le faire, et ils m'ont dit bah écoutez faites-nous une proposition et d'habitude en fait ce qu'on fait quand on veut signer un titre américain ou ailleurs en fait on voit juste le pourcentage de droits, l'avance qu'on veut donner, on voit des choses de manière très prosaïque, quoi. Voilà combien je vous donne, combien je veux vous donner, est-ce que vous êtes d'accord, on négocie, enfin voilà, c'est banal en fait comme approche. Et là j'ai carrément fait un dossier, j'ai écrit un texte en fait en disant voilà pourquoi Jonah, voilà ce qu'on aimerait faire, j'ai présenté toute l'équipe qu'il y avait dans la maison, c'est dedans, voilà. J'ai voulu faire en fait à l'image de Jonah qui est une aventure familiale, j'ai voulu leur dire on a envie de suivre votre aventure familiale et nous aussi on est une famille, et faisons une grande famille. Et donc on a fait ce dossier-là et ça leur a super plu en fait. Et on a signé tout de suite après derrière parce qu'ils ont trouvé ça super sympa quoi, qu'on leur présente les choses d'une manière aussi engagée en fait, mais simple en fait. Il n'y a pas de prétention. Il y avait des choses écrites, il y avait aussi les pourcentages de droits et les avances qu'on voulait leur faire, mais il y avait aussi le fait que voilà, on voulait suivre l'aventure avec le plus d'honnêteté possible quoi.
Donc, en tout cas, c'est assez prometteur.
Enfin, ouais, moi, alors, c'est un titre, je sais que certains, par exemple, ont dit c'est magnifique et tout, mais en single issue, par exemple, on a du mal à peut-être à s'engager, en fait, comme on pourrait le faire dans d'autres titres voilà, plus compliqués, enfin, qui expose bien les personnages pour comprendre les enjeux et tout. Sauf que c'est un titre qui peut-être potentiellement fonctionnera mieux une fois réuni justement en one shot en fait qui va peut-être pas très bien vivre sa séparation, sa coupure comme ça en single issue. Moi je l'aime quand même. Je trouve que c'est un titre simple, voilà. Mais simple pas dans le mauvais sens, pas dans il y a rien dedans. Mais simple dans le sens où faut se laisser emmener. C'est une aventure, c'est une sœur qui veut retrouver sa petite sœur. Jonah a disparu dans un monde rempli. Enfin, le jour où Jonah a disparu, une petite fille, il y a des monstres géants qui apparaissent. Voilà. Donc, et sa sœur cherche à la retrouver 2 ans plus tard. Elle continue à la rechercher, elles vont se retrouver, donc on va découvrir peut-être pourquoi ces monstres sont apparus. Et donc il y a des combats épiques un peu absurdes contre des monstres géants de la part d'une gamine qui fait 1 mètre de haut, quoi. Donc c'est un peu foufou, mais c'est en fait il faut accepter l'idée qu'en fait on nous prend par la main. C'est 2 enfants qui sont...
C'est juste la petite lecture feel good qu'on va prendre, on va lire, on va se laisser porter.
Ouais, c'est ça, en fait.
C'est chouette,
en fait,
voilà.
Chris et Laura voulaient raconter l'aventure de leurs deux filles dans un monde dans lequel il n'y aurait plus les adultes. Donc on a 2 enfants, c'est pas effrayant, c'est pas horrible, du moment un peu d'angoisse, mais c'est très léger et c'est surtout on nous prend par la main, quoi. Faut accepter l'idée qu'on nous prenne par la main et que en fait c'est graphiquement que Chris aussi peut-être parle le plus et le plus efficacement qu'il soit, en fait. C'est-à-dire oui. qu'il y a des, comme ça, des doubles splash, des histoires de mouvement, de suspension du temps qui sont très importantes, et on est dans quelque chose, voilà, faut accepter l'idée c'est pas du Mad Kint. Voilà, on n'est pas dans Mind Management. Il ne va pas falloir leur lire 67 fois et lire les bords de page pour tout comprendre. C'est pas du Alan Moore, on n'est pas dans Promethea, on a avoir lu tous les textes d'Hermès Trismégiste pour comprendre la profondeur du texte. On est vraiment sûr, on nous prend par la main, on nous emmène. Et il faut accepter ce voyage le plus simplement possible. Et je pense que c'est comme ça qu'on vit super bien. Je trouve que c'est une belle aventure. De tout ce que j'en ai lu jusqu'à présent, il y aura 3 tomes en France, donc les 3 TPB. Qui vont sortir, je pense, à 6-8 mois d'écart à chaque fois. Et c'est une aventure simple, de famille, et qui, pour le coup, voilà, peut être lue avec les enfants très simplement. Parce qu'on n'est pas non plus, c'est pas beaucoup de texte, on est vraiment dans l'image, et il faut se laisser porter, rentrer dans l'image, comme ça, dans cette aventure de 2 jeunes filles.
Ouais, moi, je l'attends, celui-là. Sincèrement, c'est Chris Samney, donc voilà, juste ça, il ne m'en fallait pas beaucoup, parce que graphiquement...
Non, puis c'est vrai que c'est un vrai plaisir. Moi, je sais qu'il y a tote bag là pour une opération en magasin pour les premiers titres. Quand les titres vont sortir, il y aura si les libraires le veulent, une espèce de PLV dans lequel il faut que les bouquins avec des badges, des marque-pages et des tote bags. Et je lui ai envoyé les tote bags, et hier il a gentiment posté. J'ai l'impression d'être une star de cinéma quand d'un seul coup j'ai droit à un post Instagram de la part de Chris Samney où il me tague dedans. Pour certains, ce serait une dédicace de Lady Gaga. C'est un petit tag de Chris Samney, ça me rend fou.
Mais c'est très chouette. Moi, je sais que j'ai fait un peu le forcing à ma librairie pour qu'ils commandent les titres pour pouvoir profiter du tote bag, parce que je suis un gros client des petits goodies comme
oui, parce
ça.
Parce que moi, je l'envoie partout. Il est en magasin, mais moi, je l'ai pas reçu, moi.
Et du coup, il faudra aller chez son libraire indépendant et y faire les yeux doux pour avoir.
C'est ce que je ferai sûrement. Hein. Je vais pas avoir le choix. Si d'un seul coup. Au bureau, ils ont décidé qu'ils seraient sympas avec moi, ils m'en mettraient un de côté. Je doute, parce que vraiment, dans ces bureaux, ils sont absolument infects.
Ça a l'air.
Tout se vole.
Et du coup, pour la fin d'année, on a droit à 3 titres. Donc, on a Big Under.
Deux titres pour la fin d'année, en fait, parce que j'ai fait une preview de l'année prochaine. Parce que c'est
voilà. Et du coup, donc on a Big Under, The Autumnal, et on a Mundus, je ne sais pas comment
Mundus.
On dit.
C'est du latin.
Mundus. Et moi, c'est celui-là qui m'a arrêté un petit peu. Alors, ça sera que janvier 2022, donc on va pas trop perdre de temps dessus, mais il n'y a pas de traducteur. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une BD sans texte hein, ou
Non, parce que c'est une production.
D'accord, ok.
C'est une production.
Donc c'est français, 100%.
C'est 100% en maison.
Ah ben voilà, une bonne surprise.
Voilà,
du coup, c'est pas ça.
On va passer vite fait là-dessus avant de revenir. Mundus, donc il sortira en janvier, peut-être début février, parce que après c'est un peu tuant, l'espace qu'on trouve. Mais donc c'est écrit par Laurent Kessy. Laurent Kessy, qui est un grand traducteur de BD très connu et de romans aussi, qui est connu pour avoir notamment traduit en France une des séries. Dernier fait d'armes, c'était la nouvelle traduction du Neuromancien de Gibson, qui est quand même un grand classique, le livre classique du cyberpunk, qui est aussi un grand spécialiste d'Alan Moore, qui a écrit un livre, je ne sais plus si c'est l'ABCR ou le dictionnaire Alan Moore, qui est sorti de USF ou une de ces maisons-là, je crois que c'est. Donc il y a un grand spécialiste d'Alan Moore, qui a traduit beaucoup de Superman, beaucoup de titres, c'est un traducteur assez émérite, et qui est aussi à côté donc écrivain de romans, et c'est un très très vieux copain, Laurent, et quand on commence une maison comme la nôtre, pour pas dire la mienne, parce qu'on n'est pas nombreux en fait à être sur le fond édito, je suis tout seul. tout de suite, en fait, quand on s'entoure des copains, et des copains, pas parce que c'est des copains, mais parce que en fait, on sait qu'ils travaillent bien, et on a besoin de pouvoir travailler en toute confiance. Voilà. Et Laurent, c'est la personne à laquelle j'ai pensé parce qu'il est, voilà, c'est, je trouve que c'est quelqu'un qui, on a une passion commune parce que c'est aussi un grand spécialiste, pardon, de Philippe K. Dick. C'est lui qui a fait le dernier coffret des traductions chez Gallimard Quarto des nouvelles de K. Dick. Voilà, on a cette passion commune pour les barjots, comme on dit. Et j'avais envie de travailler avec lui. Et en fait, j'avais aussi découvert en fait. Dessinateur espagnol Oriol Roig, donc ça va être la première vraie grande BD en fait. Je l'avais découvert et j'avais dit à Laurent, écoute, regarde ce qu'il fait. Et si on trouvait un truc à faire avec lui, je le sens bien en fait. Voilà, j'avais le sentiment qu'il y avait un truc qui pouvait fonctionner. Et en fait, en deux, trois allers-retours, il m'a envoyé une première piste. J'ai répondu, je lui ai rajouté des trucs, il a répondu, machin. Et pour la petite histoire. Donc il m'envoie le pitch de ce qui est devenu Mundus aujourd'hui, et puis je lui dis, écoute, c'est génial, en fait, ton concept, en fait. Parce que pour résumer, c'est une BD qui va se passer en France, un comics qui va se passer en France, mais le lieu n'est pas très important au final, dans les années 90, et on a une équipe de jeunes, c'est somme toute assez classique comme point de départ, qui vont découvrir un portail, et qui vont traverser ce portail, et qui vont se retrouver dans un livre, enfin dans un monde qui rappelle beaucoup un livre très connu avec une planète pleine de sable. Et en fait, on va se rendre compte qu'en fait, ces gamins se mettent à voyager, en fait, qui ressemblent à des univers connus de SF, d'aventure, de voilà. Donc on va essayer de traverser le genre sur l'imaginaire en fait. Voilà, qu'est-ce qui se passe avec l'imaginaire quand il devient réel? Est-ce que le réel est imaginaire? Et le truc, j'ai dit, c'est génial, ça rappelle un concept, voilà, qui est un truc perché pour la plupart des gens, mais ça s'appelle le Mundus Imaginalis, qui a été créé par Henri Corbin, voilà, qui était basé sur des réflexions soufies du XVIe siècle. Voilà, sur le monde imaginaire. C'est assez... Le monde n'existe que par l'imaginaire, et en fait, il faut questionner le monde en permanence pour nourrir l'imaginaire du monde, et que l'imaginaire du monde renourrisse le monde d'aujourd'hui. Enfin, voilà, une espèce de conception un peu étrange du monde. Il m'a dit, ouais, c'est génial.
Ouais, c'est un échange. Un échange de bons procédés, entre guillemets, l'un alimente l'autre.
C'est ça.
Et l'un n'existe pas sans l'autre.
Et donc, c'est un peu épique. On est déjà fini. C'est assez excitant parce que c'est super bien. Parce que c'est super intéressant. C'est en même temps, c'est assez jeune. C'est très riche. Donc, on a aussi toute la dimension du réel, sur le questionnement du réel. Comme Philippe K. Dick a pu le faire en son temps, et on retrouve aussi des archétypes très connus de tout ce qu'on a pu aimer dans le genre. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez épique. J'ai vraiment hâte que celui-ci sorte parce que je pense que ça va être un grand grand coup pour le coup. En tout cas, c'est une belle réussite et une belle équipe qui a été formée. Donc c'est Laurent Kessy pour Mundus, Laurent Kessy donc à l'écriture, Oriol Roig au dessin et parce qu'on aime bien mélanger les genres contre international, Sergueï Nazarov à la couleur qui est russe.
Mais c'est assez prometteur et du petit pitch là, ça laisse quand même des possibilités assez extraordinaires.
On parle normalement sur 3 tomes.
D'accord.
3 fois 120, donc 360 pages prévues pour l'instant.
On va sur. En tout cas, moi ça me donne envie comme ça. Et ben voilà, la fin de l'année sera. Ponctué donc avec Big Unders et The Autumnal.
Ouais, alors ouais, est... Big Under, donc ce sera. Donc là, on revient sur l'année qui est en cours 2021, donc en octobre. Big Under, donc qui sera notre première production maison, qui est écrite par Virgil Iscan, qui est un très bon copain et aussi un traducteur émérite en son genre. C'est-à-dire qu'on a tous un peu baigné là-dedans, donc en fait, tous les gens que j'ai autour de moi sont aussi traducteurs, journalistes, voilà. Et donc, Virgile, il est connu pour avoir traduit, par exemple, récemment Brad Pack chez Delirium, Brad Pack de Rick Weicht. Il a aussi fait Snot Girl, il a aussi travaillé, c'est lui qui a traduit récemment pour iComics Invisible Kingdom. Donc voilà, c'est un très bon traducteur aussi. Et il a été journaliste chez Vice, à la grande époque de Vice. C'était un chroniqueur de jeux vidéo, les meilleures chroniques de jeux vidéo, où il ne parlait quasiment pas du jeu vidéo. C'était assez exceptionnel. Et il a aussi été libraire émérite à Paris. Il a été avec Philippe Touboul, dont on parlera juste derrière, un des grands libraires de chez Arkham. La grande librairie de Paris, que les grands amateurs de comics ont connu comme moi, chez qui nous avions allé pu rencontrer Giger à l'époque. Voilà. Donc, c'est un vieux copain voilà, qui s'y connaît très bien, qui connaît très bien le genre du comics, toutes ses dynamiques et ses genres. Et quand on a lancé la maison, parce qu'il est aussi, parce que pour rien gâcher, il fait aussi du cinéma, donc il fait aussi des courts-métrages, je lui ai dit, bah, écoute, t'as pas des trucs que t'avais envie de faire, que t'as pas pu faire pour faire une BD et tout. Et je lui ai dit, bah écoute, si, j'ai 2-3 pitchs. Il a commencé par m'envoyer, cette fois-ci, je ne me tromperai pas, il ne m'en voudra pas, donc une histoire avec des ragondins dans l'espace. Ce à quoi j'ai dit, peut-être pas pour commencer. Et il m'a dit, j'ai ce truc-là qui s'appelle Catacombe, mais bon, j'ai dit, ah non, c'est quoi et tout. Il me fait, ouais, voilà, c'est une histoire, somme toute très classique, tu vois. Les Loser Club, tu vois, la Stranger Things, tu vois, Goonies et tout. Voilà, parce que c'est un truc qu'il a écrit. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première mouture de ce truc-là a été écrite dans les années 90, parce que c'était un jeu de rôle, là, ce qu'il avait écrit. Et donc, j'ai dit, mais ça, c'est génial, parce qu'il se passe à Paris, les Catacombes, c'est quand même un lieu super. Allons-y, fonçons, quoi. Et donc, on a écrit cette aventure, voilà, sur et si le bassin parisien cachait en son sein, en des temps immémoriaux, bêtes connues sous d'autres noms et par d'autres personnes, voilà. Qu'est-ce qui se passerait, voilà, si une aventure, un loser club réel, parce que c'est une espèce de team, voilà, d'une espèce de skateboardeuse un peu en marge, une punk, la bonne de la classe, un élève. Et puis celui qui parle jamais, cette espèce d'équipe voilà, hétéroclite qu'on peut retrouver assez souvent dans les trucs. Et moi, ce que j'aime à dire quand j'en parle maintenant, c'est imaginons en fait que John Hughes et Mike Mignola aient décidé de faire une BD ensemble qui se passera à Paris. Donc, faut imaginer qu'on a une espèce de rencontre un peu surréaliste entre le Breakfast Club et Hellboy. Imaginons ce que ça donne.
C'est assez difficile à visualiser, mais un peu d'imagination, en secouant le tout, on devrait pouvoir s'en sortir.
Et c'est super, c'est vraiment génial. On a une super. En fait, à chaque fois, je suis super vraiment heureux des équipes qu'on arrive à monter, parce que c'est la partie la plus excitante quand on fait de la création. Donc, Virgile, donc, qui a écrit cette histoire. Ensuite, on a Alex Nieto, qui est italien. Non, qui est italien, il est espagnol, qu'est-ce que je raconte ? Mon Dieu, quelle horreur, je me trompe. Non, c'est Fabiana. Donc, Alex Nieto, qui est au dessin, qui monte gentiment. Il est en train, en ce moment, de sortir des titres. C'est un tout petit maison américaine chez Scoot Comics, aux États-Unis. Il a un truc qui s'appelle Locust, qui sort en ce moment. Et il a aussi sorti un autre projet chez Spaceman, en Espagne, qui s'appelle Beyond, qui vient de sortir très récemment, un truc de SF. Donc c'est un jeune artiste, pareil, mais qui travaille comme un dingue. Et aux couleurs, on a Fabiana Mascolo. Fabiana, qui est bien connue des gens qui aiment Boom Studio, pour le coup, vu qu'elle travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup pour eux sur les comment ça s'appelle ces trucs-là Bon, enfin bref, elle en a fait beaucoup chez Boom. Et elle fait beaucoup de couleurs. Et elle a aussi un super roman qu'elle a fait récemment, un roman graphique chez Scoot Comics aussi, qui s'appelle Yasmine, que je conseille à tout le monde. Sur une rescapée de la guerre d'Irak, voilà, qui est un truc super bien. Voilà, c'est une super équipe en tout cas.
C'est chouette parce que dès la première année, en fait, on a droit à une création 100% originale.
C'était capital pour nous. On voulait absolument avoir une première créa dès la première année parce que c'est au cœur de ce qu'on a envie de faire et ce qui m'a donné envie de faire cette maison et de lancer cette maison. Chez 404, c'est que c'est là qu'en fait on peut dire des choses. C'est-à-dire qu'on peut le dire en achetant un livre et en le traduisant et en le lançant en France, on peut dire des choses. Mais en fait, c'est dans la création qu'on a quand même cette liberté, même en tant qu'éditeur. C'est-à-dire qu'on ne change pas les choses. Mais par contre, on peut driver un peu les auteurs et sur la forme, sur les dynamiques de récit, sur les coupures, Et c'est là que le métier il prend vraiment corps, en fait, au final. On peut le faire aussi. Hein. Moi, j'hésite pas à proposer des modifications, même de couverture, placement de couverture, pour des achats américains et tout. Quand je suis, voilà, j'hésite pas, en tout cas. Mais même sur la construction, même sur un achat, en fait, je suis capable de dire si je trouve que narrativement, le système de pose du single issue fonctionne pas, donc je trouve. J'hésite pas à dire non, mais là on va passer ça, là ça va pas. Si ça correspond pas à ce que je pense être bon. Donc en tout cas, la création, voilà, pour y revenir, c'est là qu'on peut dire des choses et c'est passionnant. Quoi.
Mais du coup, on reste sur des formats standards, peu importe que ce soit, comme on disait au début, en création ou en titre traduit et importé, ça reste sur le même format. Sauf cas particulier.
Notre format repère standard, comme pour tous les éditeurs français, sera le carton classique, cartonné, bon, sur son format, qui est donc l'adaptation du format TPB plus l'épaisseur de carton. Quoi. Donc ça, c'est le standard. Par contre, par exemple, la fleur de la sorcière dont on parlait tout à l'heure, lui, c'est un brochet à rabat, par contre en carte retournée frappée, c'est-à-dire qu'on l'a frappé à chaud avec de l'or, il va être magnifique, mais on a le format souple parce que je trouvais que le récit, moi à titre personnel, ce serait moi, je ferais que du souple, mais je sais que la France n'aime pas ça, donc je n'irai pas dans cette chose-là, parce que mais pour plein de raisons, j'aime le souple, parce que j'aime le souple américain, j'aime le TPB américain, parce que il prend pas de place, et quand on en achète beaucoup, bah, au bout d'un moment c'est fatigant, que je ne suis pas forcément un amateur, et donc il faut que, quand on fait un cartonné, il faut qu'il y ait un truc en plus. Il faut qu'il y ait un petit bonus quand même pour justifier, je trouve, son existence. Donc bah, on a fait le dos toilé pour le Duns, pour Big Under, on a toute la titraille et tous les trucs dessus sont un pantone en fait, fluo, en fait, histoire de rendre la couve encore plus sexy. Et même les gardes en fait, à l'intérieur sont un pantone fluo. Mais voilà, puis moi aussi, pareil, sur les papiers, je, à titre personnel, je, mais pas que, en fait, il y a un système de réflexion aussi sur cette question-là. Je suis en train de dériver, je suis désolé.
Non, au contraire, c'est intéressant.
Sur les papiers, par exemple, je ne supporte pas le papier couché. J'accepte le papier couché sur un TPB américain. Parce que c'est un format pas cher, parce que c'est souple, parce que ils ont ce côté, en fait, un peu cheap.
Ouais.
Assumé, en fait, aux États-Unis. La plupart, une grande partie de la production américaine est fabriquée en Chine, ils s'en foutent. Enfin, voilà, il y a un truc. Donc j'accepte. Par contre, moi je ne suis. J'aime le papier offset. Donc nos bouquins sont en papier offset. Mais par contre, des beaux papiers offset. C'est-à-dire que
c'est bien sous la main, sous les doigts, quand on tourne la page, voilà, les couleurs. Ça apporte.
En fait, il y a plusieurs choses. En fait, c'est-à-dire que quand on fait un cartonné, un relié cartonné en France. Moi, le problème que j'ai, par exemple, avec le papier couché, c'est que en fait, ça densifie le rapport au bouquin. C'est-à-dire que souvent, c'est des papiers vu que en fait, c'est une pellicule qui vient accueillir. En fait, là, je suis désolé, c'est le côté fabricant qui est en moi, directeur artistique, hein, c'est insupportable. Mais le papier couché, voilà, c'est une pellicule qui vient accueillir en fait, qui permet justement d'avoir ce brillant et cette couleur. Le problème en faisant ça, c'est que souvent, ça fait des papiers qui deviennent tout de suite un petit peu plus dur en fait, même au toucher en fait, et des fois qui peuvent même un peu coller, et donc on a des pages en fait, on a une densité, les pages se collent presque en fait, une espèce de c'est très fermé, et moi j'aime pas ça, parce que quand on fait un cartonné, quand c'est embroché, c'est pas grave, tout reste souple, donc en fait la liberté de lecture en fait est beaucoup plus simple avec du papier couché dans ce format là par contre quand on fait du cartonné, ça rigidifie l'ensemble, ça referme. D'accord, vraiment, ouais. C'est très dur en fait, on ne peut pas ouvrir, éclater complètement son bouquin, et le problème c'est que les deux réunis font une espèce de truc brique en fait, dans lequel moi j'ai du mal à pénétrer quand je lis un bouquin en papier couché en France, donc je fais du papier offset Lambert graphique, parce que c'est mon papier offset préféré. Voilà, ça coûte une fortune, mais ça fait partie des petits bonus que je peux m'offrir. Et parce que les papiers offset offrent justement cette légèreté en fait. C'est un papier qui est beaucoup plus léger en fait au final, parce qu'il ne colle pas, il est plus. Voilà, il est, donc en fait, le côté cartonné, fermé de l'objet s'ouvre quand même et respire beaucoup plus avec un papier offset. Et en plus, effectivement, il y a deux principes qui est que en fait, la mémoire d'un lecteur a besoin d'un toucher, en fait, pour fonctionner. C'est pas moi, hein, c'est les recherches l'ont prouvé. Même, j'invite les gens à aller voir des grands chercheurs qui ont travaillé là-dessus, mais le toucher est capital dans le rapport à l'objet et dans la mémoire, dans le système de mémoire. Donc moi, j'aime ce côté, voilà, il faut qu'il y ait un tout petit peu quand même de sensation sous le doigt pour que la lecture soit totalement efficace, à mon sens, quoi.
Ah, puis c'est plaisant d'avoir le petit granuleux quand on attrape la
page.
Et encore,
il est pas... Là, en fait, je parle sous... moi, je fais de l'offset, de l'ambre graphique, c'est du sans bois. C'est-à-dire qu'en fait, le granulé, juste, le grain est extrêmement fin.
Ah, mais ça se sent. C'est pas du papier classique. Moi, je le sens. Enfin, ouais, ça me fait penser un petit peu à...
J'ai beaucoup travaillé sur les papiers, hein, parce que c'est capital pour moi. C'est un truc... Moi, j'adore les papiers. Moi, ça m'obsède. Il y a des maisons d'édition que j'aime parce qu'elles utilisent des super papiers, en littérature notamment. Des maisons comme Alia, qui est une petite maison, mais qui fait des super bouquins. Moi, quand ils utilisent des... Je suis désolé, là, c'est vraiment le gros nerd du papier, mais un beau Munchen Polaroff. Voilà. Mais là, j'ai dérivé totalement, je suis navré.
C'est des petits secrets de fabrication qui rendent l'objet un petit peu plus sexy. Donc ça fait
ouais, non, mais c'est pareil, voilà, ce qu'on appelle les tranches-files. Le tranche-fil, juste après le dos, en fait, du livre, qui retient les pages, en fait, vous avez ce petit morceau de tissu, en fait, qui est en fait un renfort pour les reliures, en fait. C'est censé, en fait, tenir, en fait, encore plus solidement, parce qu'en fait, on vient coudre, en fait, une partie des reliures dans ce truc-là, et ça rigidifie, ça solidifie, en fait, les livres pour la lecture et surtout pour que le livre tienne dans le temps. Et donc, même ça, je choisis les couleurs, on se prend la tête à choisir les bonnes couleurs, les bons trucs et tout. Donc, c'est pour ça, pareil, les éditions qui font cet effort-là, hein. Ils sont aujourd'hui de moins en moins nombreux. Et pas pour nous envoyer des fleurs, hein. C'est juste que quand les gens, en fait, achètent des livres, quand vous voulez mettre le prix dans un bouquin, et je parle pas des petites maisons, hein, souvent les plus grosses maisons se laissent aller. En fait, s'il n'y a pas ce truc-là, ça veut dire que votre livre ne tiendra pas nécessairement bien dans le temps.
On le voit, en fait, du moins sur Dune, ce que j'ai eu la chance d'avoir dans les mains, la fabrication m'a un petit peu fait penser au titre du label 619, avec leur dos toilé, de qualité de papier aussi.
Ça, c'est drôle, c'est parce que moi, quand j'en parle, il y a deux maisons que en tout cas, en BD, il y en a plein des maisons, hein, j'ai... Et en fait, qui font du comics, comme on va dire, comme... vu qu'on fait du comics américain. J'avais deux repères, en fait, de labels pour des choses différentes. Et effectivement, je trouve que le label 619 et Ankama aussi. Hein,
oui, enfin, ça englobe.
On justement cette réflexion sur l'objet que je trouve très intéressante et très noble. Donc, par exemple, moi, j'ai plein de bouquins. J'achète, en fait, des trucs de 619, par exemple, je les lis pas forcément. C'est pas forcément, tu vois, par contre, sur le fond, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Par contre, j'achète souvent juste parce que je trouve ce qui est très beau, très qualitatif. Et en fait, ça donne envie, en fait, moi, tout simplement. Et par contre, après, bon, je lis pas forcément parce que c'est pas forcément pour moi, mais je trouve que voilà, c'est une très belle maison. Et l'autre maison que j'aime beaucoup, c'est Aquileos. Voilà, c'est.
Oui.
Sur le fond et la forme, je trouve qu'ils ont fait un boulot. À une époque, justement, il y a une petite dizaine d'années, quand on n'en était pas aujourd'hui à cette réflexion sur les objets et tout, eux l'avaient déjà fait, je trouve. Et donc voilà, c'est mes deux repères. Voilà, je me sens plus proche par artistique, je me sens plus proche d'Aquileos. C'est une maison que je lis avec plaisir. Je trouve que leurs productions sont vraiment bonnes et les choix qu'ils font, même en achat américain ou autre, sont vraiment bonnes. Moi, je les remercierais toujours de m'avoir fait découvrir Kulbar, par exemple, sur son travail sur Lovecraft.
Moi, j'ai des
coups de cœur
exceptionnels chez Aquileos, comme j'en ai chez Label 119. Mais là, mes derniers coups de cœur sur Aquileos, c'est le Stand Still, Stay Silent et Space Boy, qui pour moi sont deux BD.
Oui. Mais de toute façon, ils font un travail. En fait, je peux aller, par exemple, acheter un titre d'Aquileos, les yeux fermés. Même si, en fait, je vais trouver ça moyen, je serai quand même heureux. Alors que vraiment, le label 619, c'est autre chose. Je trouve que par contre, c'est un super travail. Enfin, en fait, c'est pas du tout pour moi, mais. Là, en fait, Aquileo, c'est une belle maison, je trouve, vraiment. Je fais de la promo aux concurrents, c'est terrible, il ne faut pas que ma patronne m'entende. Hein. Mais et Label 619, je trouve qu'ils ont une chose exceptionnelle qui est très rare à faire. En fait, qu'on peut même pas vouloir le faire et y arriver. C'est-à-dire qu'en fait, ils fédèrent. Ils fédèrent en fait une génération. Même maintenant, deux générations presque de créateurs. Oui. Et en fait, ils ont un côté presque maison de disques, en fait, à l'ancienne. Moi, pour moi, ça me rappelle plus le rapport qu'on a au Label 619. Et plus un rapport qu'on pouvait avoir à une maison de 10 dans les années 80. C'est-à-dire, en fait, où on se fout de savoir ce qui sort, et en fait, on va l'acheter quand même.
Alors, il faut savoir qu'une grosse majorité des gens qui vont nous écouter n'ont peut-être jamais mis un CD dans une platine.
Mon Dieu, ouais, non, mais bref, je suis navré, mais punk rock américaine, années 90, je sais pas, des trucs comme Discord, ou des trucs comme ça, voilà, des trucs... ou Alternative Tentacle, comme ça, voilà, des trucs, en fait, on se... C'est assez rare, en fait, de réussir à faire ça. Dans un autre genre, par exemple, réussir à faire, vraiment, dans un rien à voir en littérature et même en BD, Toussaint l'Ouverture le fait très bien. C'est-à-dire que moi, par exemple, à titre personnel, j'achète Toussaint l'Ouverture depuis des années parce que, en fait, les livres, les objets sont juste dingos, quoi. En fait,
Je pourrais faire pareil. Je me retiens parce que juste les livres sont beaux, mais je les lirai jamais, je le sais, parce que c'est pas du tout ce que moi je
lis. Tu vois, par exemple, j'ai la première édition, tu vois, du livre direct, en fait. Dès que c'est sorti, j'achète tous leurs bouquins depuis des années. Je lis même pas tous parce que j'ai pas le temps de tout lire, mais voilà. C'est, en tout cas, pour en revenir au Label 619, ils ont ce côté, voilà, un peu rock'n'roll, mais même voilà, maison de disque, voilà, qui fédère en fait comme ça, et qu'on presque un côté. J'espère que ça va pas être mal pris, mais en fait un côté étudiant en art, dans le sens où il y a cette espèce d'énergie de collectif, tu vois, qu'on pouvait avoir même dans les vieux pilotes, enfin, tu vois, dans la fondation de pilotes à l'époque, le magazine ou des choses comme ça.
C'est une sorte de mélange qui fait et où chacun y trouve un petit peu son compte pour plusieurs raisons. Il y a toujours un truc à tirer. Enfin, moi, je sais que je trouve toujours quelque chose à sortir d'un titre, même si le titre ne me parle pas. Mais,
Moi, je sais que c'est sur la forme. Et j'en achète et je continuerai à en acheter. Tu vois, je trouve qu'il y a des propositions qui sont intéressantes. Mais par contre, j'ai pas la vérité, donc je suis pas en train de dire que c'est nul, tu vois. Mais par contre, ça me parle moins sur le fond. Voilà. J'ai pas trouvé un truc pour l'instant chez eux qui me dit putain, ça je peux pas m'en passer.
Quoi. D'accord. Moi, j'en ai quelques-uns.
Mais par contre, j'adore cette maison. En fait, tu vois, c'est par contre, j'adore l'énergie, j'adore le truc, j'ai envie de le défendre. Mais par contre, c'est pas forcément pour moi. Mais ils font ce travail.
J'ai trouvé, moi, c'était le lien que j'ai trouvé sur l'objet, qu'on avait un peu le même esprit avec le premier Dunes et ce que moi, j'aimais.
Mais comme je te dis, de toute façon, ça fait partie effectivement des maisons qui sont inspirées. Vraiment. Enfin, je ne veux pas leur vœu du mal en disant que c'est, ça me parle moins, tu vois, parce que justement, ça reste un exemple à suivre. Tu vois, et je trouve ça important. Tu vois, de reconnaître les forces du truc. Moi, je trouve ça impressionnant, le Label 619, vraiment. Mais voilà, ça s'arrête là pour moi, après. Voilà.
Du coup, avant de conclure, je te propose de parler du dernier titre qui arrive chez vous en fin d'année, qui est The Autumnal. Donc...
Alors, déjà, je peux t'annoncer qu'en fait, on va le traduire. Ça s'appellera Autumnal, ça sera beaucoup plus simple pour les gens. Parce que les gens sont là, c'est Autumnal.
Ça porte à confusion avec un titre qui était sorti chez Urban il y a quelques années, The Autumnland, qui a aussi.
Ouais, The Autumnland. Ouais, les gens sont plantés. Au début, j'ai vu ça. Ça
du coup, on a ce titre qui arrive donc fin d'année pour octobre avec Chris Sheehan au dessin, Daniel Cross au scénario, aux couleurs de Jason Wardy, Jim Campbell au lettrage. Et Philippe Toboul, dont tu nous parlais tout à l'heure, qui s'est occupé de la traduction. Du tout une création, donc.
Ah là là. Non, du tout. Non, c'est un achat donc j'ai de The Vault, cette maison qui monte et qui monte et qui monte, américaine, que les gens ont pu découvrir en France pour l'instant juste sur The Savage Shores, qui est sorti chez iComics. Mais voilà.
Il y en a un qui arrive juste avant l'été qui s'appelle The Plot.
Oui, The Plot. Et d'ailleurs, c'est drôle, c'est-à-dire que je peux le dire aux gens qui essaieront de lire peut-être les deux. Il y a une forme de lien un peu sous-jacent, enfin, un peu ténu, mais qui existe en fait entre The Plot et Tonal.
D'accord. On a donc un titre comme Big Girls, purement et simplement comics US,
ouais,
pur et dur.
Sauf que, en fait, alors, on va dire les choses un peu crûment pour commencer, d'horreur, avec des tout ce que cela peut comporter comme angoisse, sans pas forcément, enfin bref, on est sur un titre qu'on va qualifier d'horreur, dans lequel l'automne et les feuilles d'automne peuvent devenir terriblement angoissantes. On va faire très rapide.
On garde un peu de mystère.
Voilà, moi, ce titre, il m'a tout de suite tapé dans l'œil avant même la publication du premier single issue. Parce que je suivais un petit peu ce que faisait Daniel Kraus, l'auteur, en tant qu'auteur à côté, il commençait à monter, il avait travaillé sur l'adaptation du film de Guillermo del Toro, avec del Toro, La forme de l'eau, il avait travaillé sur des trucs de Romero qui n'avaient pas été... Bref. Il commençait à monter un peu dans ce genre-là, et quand il est arrivé sur ce truc-là, ça m'a fait popper. Donc je me suis dit, tiens, je vais aller voir en fait quelles sont les previews, les premières pages qui ont été préannoncées du truc. Et en fait, je suis tombé sur le dessin de Chris. C'est complètement dingue. C'est le premier vraiment gros boulot de Chris, je crois. Chris Sheehan. Et en fait, ce qui m'a plu, en fait, c'est un peu comme d'autres choses. En fait, c'est-à-dire qu'il fait le pont. Il fait le pont entre. C'est très crayonné. Les couleurs de Wordy sont pareilles. Sont très grosses craies, c'est très gras, c'est pas du tout traditionnel en fait comme approche graphique, en tout cas pour des Américains. On a un côté peut-être très très européen, peut-être qui rappelle d'autres choses, ou alors moi ça me rappelle des choses, mais je vois plus de l'auteur dessus. Là je fais des dérivés complètement,
mais je trouve que ça a un petit peu sensiblement, on va dire, le titre que tu parlais tout à l'heure de Matt Kind, Mind MGMT, ce côté un petit peu crayonné, couleur, ouais, un peu à l'aquarelle.
Voilà, on a un côté aquarellé, craie, mais en même temps, ça, sur le dessin, on n'est pas du tout sur ce que Matt Kind peut produire à titre perso,
oui.
Ou l'émir, tu vois, à titre perso, tu vois, qui sont un peu les cousins. On est sur quelque chose qui a une structure beaucoup plus classique en fait sur le fond. C'est-à-dire, en fait, on a une structure quand même personnage qu'on les reconnaît. On est sur des formes beaucoup plus adultes, beaucoup plus tradies en fait. Mais par contre, c'est tout le fond et toutes les formes et la façon dont c'est ancré qui a cette texture en fait, ce gras, voilà, que j'aime beaucoup moi, qui m'a vraiment vraiment plu quoi. Et c'est pour ça que en fait j'ai tout de suite demandé à récupérer plus d'éléments pour juger du truc et j'ai trouvé ça fabuleux. Donc le titre est encore en publication en ce moment. Il y en aura 8, je crois, 8 ou 9, je ne sais plus très bien. Tu vois, là, je suis un peu perdu sur les titres. Donc 8 ou 9 single issues, tu vois. Donc ça va faire un titre de 190 pages. Ça va vraiment être un gros pavé. On n'est pas par contre sur de l'horreur au sens stricto sensus. Tu vois, c'est pas un slasher, ça gicle pas du sang partout. On n'est pas du tout comme sur The Plot, sur un truc ou sur Lock and Key ou ce genre de choses. Tu vois, on n'est pas du tout sur des choses graphiquement, ça gicle partout.
Ça va être plus sur de l'ambiance.
Voilà, on est sur moi ça m'a fait penser en fait vraiment à tout le travail de qu'a pu faire en fait Richard Matheson sur la question des ambiances. Peut-être plaisant dans Craft au sens de la filiation, au sens du sang. Quel est vraiment notre passé, quoi, d'où vient-on? Et donc tout ça mélangé, cette espèce de l'environnement qu'on semble connaître, qui peut devenir un danger, mais qui est un danger pas vraiment agressif de prime abord, cet environnement qui change, ce qu'il y a caché dans les ombres derrière, qui pourtant on connaissait bien et qui se transforme du... Voilà. C'est un récit qui, en termes de cinéma, peut-être serait plus proche d'un It Follows. C'est-à-dire c'est l'invisible, en fait.
Ouais. Tu vois. Plus psychologique en fait, plus de l'horreur psychologique parce que c'est le personnage. Ouais,
c'est-à-dire qu'on est, on est, On est plus sur de l'horreur, tu vois, on est sur quelque chose de frontal, on est sur quelque chose de très réflexe. Donc, c'est un beau récit. Pour le coup, je ne serais pas traumatisé, je sais que c'est pas ça. On est plus proche du récit romanesque. En
fait. D'accord.
Et le graphique vient souligner ça, en fait. Mais on a quand même un auteur de livre, en fait, dedans. On a toute cette forme-là qui est Charlie, tu vois, que Charlie le bouquin, tu vois, la BD. On est vraiment plus sur un truc... Qui écrit par un romancier. Donc en fait, un romancier plus quelqu'un qui essaie d'accompagner en fait un romancier, l'appellation roman graphique me traumatise moins.
Je crois que ce terme roman graphique, c'est le plus grand mystère de la BD. Tout le monde l'utilise comme il veut, comme il peut.
Mais je crois qu'en fait, moi, j'aime bien quand en fait la structure du récit est vraiment romanesque.
D'accord.
C'est-à-dire que ça ne me dérange pas de l'utiliser quand quelqu'un a écrit un texte et qu'il est illustré derrière pour accompagner le propos. Souvent, le problème, ce qu'on va appeler un roman graphique, c'est en fait un truc graphique dans lequel on va l'appeler comme ça. C'est là que c'est gênant, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le roman graphique me dérange pas quand en fait c'est le propos qui est emmené par le dessin qui emmène. Voilà. Si je devais faire un rapide résumé de mon analyse. Mais quand on commence à être sur 200 pages de récit et que en fait le propos n'est pas uniquement graphique, ça me dérange pas d'utiliser.
Mais je pense qu'on va conclure ici après un petit aperçu de ça et du temps que tu nous as donné, qui est vraiment beaucoup plus que ce que je pensais. Et je te remercie, c'était super intéressant. J'espère que ça plaira autant aux gens.
J'ai beaucoup trop donné, il va falloir couper.
Je vais faire ça, je vais couper, je proposerai des DLC. En tout cas, merci beaucoup. On espère que 404 Comics du coup connaîtra le succès avec son lancement.
Oh, c'est la même maison, tu sais.
Oui, mais si 404 Comics a un bon lancement, on aura encore du label qui nous proposera d'autres titres et la suite de Dunes que j'espère avoir et voir vite.
Voilà, c'est de toute façon prévu pour 2020. En fait, on est censé rester, parce que pour tout te dire, je viens de claquer tellement de pognon dans une production pour 2023
que... Il faut qu'on reste jusqu'en 2023.
On sera là au moins jusqu'en 2023. Après, mais pour l'instant, jusqu'à 2023, il va falloir que je justifie les sous-dépenses.
Eh bien, c'est tant mieux, parce qu'il y a de quoi faire, il y en a pour tous les goûts, ça donne envie. On n'hésitera pas à proposer, vous retrouverez en complément de ce podcast, du coup, les chroniques de Dunes et de Beat Girls. Peut-être un petit podcast aussi avec l'équipe, on verra suivant les dispos de tout le monde. Nicolas, je te remercie beaucoup de ton temps, à très bientôt.
Et de même, au plaisir.
Pour tous les autres, comme d'habitude, vous nous retrouvez sur le blog, sur Twitter, Instagram, Facebook, et vous n'hésitez pas à nous faire des retours, on sera là avec plaisir. Merci beaucoup, salut.